L'Université de Rennes propose en quelques clics des informations scientifiques sur le Covid-19, fiables et vérifiées par les enseignants-chercheurs de la faculté.
Ce qu'on sait et qu'on ignore sur le SARS-CoV-2 avec le professeur Vincent Thibault, crise sanitaire et théorie du complot, ou encore évaluer la toxicité des traitements expérimentés contre le Covid-19, autant d'articles scientifiques vulgarisés que propose l'Université Rennes sur une page dédiée de son site internet. L'initiative lancée par le service de communication scientifique de Rennes propose d'ores et déjà de nombreux éclairages à propos du Covid-19, une manière de démunker les fake news, de vulgariser la recherche scientifique, mais aussi de faciliter la rencontre entre les chercheurs et le grand public. J'ai échangé ce matin avec Bruno Laviole, professeur de l'Université Rennes 1 et directeur du Centre d'investigation clinique CHU de Rennes INSERM. Il a notamment réalisé une vidéo explicative sur l'inclusion d'un patient dans l'essai thérapeutique européen Discovery, coordonné en France par l'INSERM justement. Également avec nous, Julien Lebonheur, responsable de la communication scientifique à l'Université Rennes 1, en charge notamment d'alimenter avec des articles cette page internet dédiée à l'information scientifique sur le Covid-19.
Julien Lebonheur, est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe de cette page et comment est née cette idée ?
Alors ça s'inscrit dans une action plus large qui est la communication scientifique à l'université. L'idée, c'est tout simplement d'élargir le public de la recherche qui est faite à l'université et de faire progresser l'idée que l'université est aussi un lieu de recherche en partenariat avec les organismes. Et bien entendu, dans le cadre de la crise actuelle, il était important pour nous d'essayer de rassembler en un même lieu l'ensemble des contributions que l'université fait en recherche sur cette pandémie, avec différents contenus qui sont des contenus qu'on essaye de faire de manière un peu synthétique, qui offre une vision un petit peu large, et en évitant les choses un petit peu anxiogènes, c'est-à-dire des résultats un petit peu partiels ou un peu annoncés à l'avance, etc. L'idée, c'est vraiment de donner une information au public qui lui permette de se faire un peu son idée sur cette pandémie, sur les recherches qui sont menées, de manière la plus sereine possible, parce que voilà, on a largement notre lot de questions autour de cette pandémie-là, et c'est toujours intéressant d'avoir des experts qui viennent apporter leur point de vue. Donc on a plusieurs types d'experts qui interviennent. Alors Monsieur Laviole qui est avec nous, on a également la contribution du professeur Revest, qui est un infectiologue et qui travaille, donc professeur de Rennes aussi, et qui travaille au service de réanimation médicale et de maladies infectieuses du CHU de Rennes, et qui lui donne une vision un peu épidémiologique de la pandémie. On a également des contributions de scientifiques qui ont monté des programmes de recherche autour de ce virus, sur par exemple la réponse immunitaire des patients, ou sur la toxicité des traitements, notamment. Je ne travaille pas tout seul sur cette page. Moi, je suis plus spécialisé dans la recherche, on va dire, dite dure sur les sciences médicales, biologiques et autres. Et d'autres collègues ont pris le relais sur les aspects plus de sciences humaines. Donc, notamment, ce que vous dites, hein, la recherche, les recherches qui sont faites autour de la perception un peu sociologique, hein, de ce genre de crise. Alors donc on a des liens avec les théories du complot. On a également une contribution très intéressante sur l'inégalité scolaire face au numérique, parce que là, on s'est retrouvé quand même dans une situation où les élèves n'avaient plus que des contacts numériques avec l'école, ce qui pose déjà pas mal de questions en temps ordinaire et en posait bien entendu davantage dans cette période-là. Donc voilà, moi, je contribue sur une partie, et puis des collègues de la direction de la communication et puis des autres unités de recherche communiquent sur ces autres aspects-là. L'idée étant que les sciences ne sont pas limitées aux sciences biologiques, médicales ou autres, et qu'on a un spectre très large à l'Université de Rennes et avec nos partenaires pour travailler sur cette pandémie.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est le contenu et la manière dont ces sujets ont été traités. C'est presque du travail de journaliste.
C'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. C'est que nous, alors la différence avec un journaliste, elle est très importante. C'est que nous, on fait valider nos contenus par les chercheurs et les scientifiques. Alors qu'un journaliste, lui, son credo, c'est quand même l'indépendance éditoriale. Nous, on est quand même des communicants, c'est-à-dire qu'on travaille au nom de l'institution. Mais l'idée, c'est vraiment de produire une information qui soit la plus semblable possible dans son intention à un contenu journalistique, parce qu'il s'agit d'informer tout simplement. Et ce qu'on fait avec les scientifiques, c'est qu'on vérifie la validité de la façon dont on a vulgarisé les choses pour qu'elles soient accessibles. Voilà. Mais effectivement, c'est un travail journalistique dans le sens où on va nous-mêmes nous se documenter avec les autres études disponibles. Par exemple, on introduit des références et autres. Après, cela dit, on a, nous, le point de vue du scientifique avec lequel on travaille. Et un journaliste scientifique, par exemple, de la presse d'information, il va croiser les sources avec différents instituts de recherche et autres qui ne sont pas nécessairement liés au site sur lequel le scientifique travaille. Alors que nous, on travaille vraiment avec les scientifiques du site.
En parlant de scientifiques, justement, dans une séquence vidéo de quelques minutes, Bruno Laviole vous proposait, pour alimenter cette page de l'Université Rennes 1, de suivre l'inclusion d'un patient dans l'essai thérapeutique européen Discovery, essai coordonné par l'INSERM en France. Et donc, dans cette vidéo, au format très télévisé, semblable un petit peu au sujet que l'on peut voir dans les JT, on vous voit, monsieur Laviole, dans les couloirs du centre d'investigation clinique de Rennes, aller à la rencontre d'autres personnels médicaux. Vous expliquez notamment ce qu'est cette étude, son principe et comment elle se déroule, à Rennes en tout cas, ce que vous y faites également. C'est étonnant de voir un chercheur en médecine se filmer et filmer ses collègues finalement pour expliquer ce qu'il fait. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà été amené à faire ou est-ce que c'est une grande première ?
Non, c'est une grande première et comme donc c'est suite à un message de l'Université de Rennes 1 que j'ai trouvé intéressant de proposer un petit sujet permettant de montrer au grand public comment une recherche clinique se passe de l'intérieur. Alors, il faut savoir que moi, je travaille donc dans le Centre d'investigation clinique qui est une unité de recherche clinique labellisée par l'INSERM. L'INSERM, évidemment, tout le monde connaît les unités INSERM de recherche fondamentale. En revanche, les gens connaissent moins les unités de recherche clinique. Et dans les années 90, l'INSERM a souhaité mettre en place des structures de recherche qui puissent accueillir des malades dans les CHU principalement, qui permettent de mener des recherches cliniques de qualité avec le personnel nécessaire. Alors, les images que j'ai tournées se sont déroulées principalement en réanimation, puisque les patients ne viennent pas au centre d'investigation clinique. C'est nous qui nous déplaçons pour ces malades qui ne sont pas transportables. Mais il me semblait important, dans le contexte de la pandémie et aussi dans un contexte un peu trouble sur les essais cliniques, les traitements qui marchent, de montrer comment ça se passe, quelle est la vraie vie des chercheurs cliniciens. Et donc, j'ai vraiment été aidé puisque j'avais jamais fait ça. J'ai filmé toutes les images avec mon téléphone portable puisque c'était compliqué de déplacer des caméras et des micros dans les services avec toutes les mesures de barrière et les mesures de protection des individus qu'on doit respecter. Donc, j'ai fait ça principalement avec une technicienne d'études cliniques qui me suit et qui m'aide pour l'inclusion des patients. C'est pour la petite histoire comment ça s'est passé.
Est-ce que ça a été difficile pour vous, monsieur Le Bonheur, de convaincre ces enseignants chercheurs comme Bruno Laviole ou au contraire, il et elle ont directement accepté ?
Alors, monsieur Laviole a répondu tout à fait spontanément à l'appel de l'université. Donc, moi, je n'ai eu qu'à recueillir sa contribution, on va dire, à sa proposition de contribution. On a lancé un appel par email à l'ensemble des personnels et il a répondu immédiatement. Donc, il était vraiment dans les premiers à répondre et voilà. Et je dois dire que c'est un mouvement qui est assez large. Les chercheurs à l'université de Rennes, mais j'imagine aussi à Rennes 2 et ailleurs sur Rennes, sont très, très demandeurs de cette communication au grand public. C'est quelque chose, un enjeu qui a été bien identifié. On voit bien tout l'intérêt qu'il y a de partager ces questionnements. Et on a autour de la pandémie, par exemple, beaucoup de questions un peu subtiles qui sont extrêmement importantes d'être discutées par ces chercheurs. Donc, M. Laviole était très volontaire et il est largement représentatif de la communauté de recherche sur le site de Rennes.
M. Laviole, est-ce que c'est important pour vous de montrer en quelque sorte l'envers du décor? Un décor qui peut parfois paraître opaque aux yeux du grand public.
C'est à mon sens fondamental. C'est important de pouvoir communiquer aux yeux du grand public parce que souvent, il peut y avoir des visions un peu fantasmagoriques de la recherche clinique, de la notion de cobaye, de la notion de tirage au sort. Donc, je voulais montrer comment ça se passe en pratique. Pour moi, c'est vraiment un élément important et je remercie encore vraiment le soutien du service com de l'Université de Rennes qui a été impressionnant d'efficacité.
C'est difficile de créer un lien entre le domaine scientifique, celui des chercheurs, où tout paraît bien complexe, et le public qui cherche, lui, à s'informer.
Non, moi, je ne pense pas. Enfin, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. Moi, j'ai juste voulu faire partager un peu l'activité de la structure que je dirige. Et puis c'est important, enfin franchement, il y a des sites qui existent déjà, par exemple, il y a un site qui s'appelle marechercheclinique.fr, je crois, qui raconte un petit peu comment se passe la recherche clinique, mais c'est important de faire connaître à la population l'importance de mener des études méthodologiquement bien faites et dans de bonnes conditions pour pouvoir répondre à des questions importantes, tout ça quand même avec un seul but, c'est d'améliorer la prise en charge des patients. Donc j'ai essayé de contribuer avec mes modestes moyens.
Pour rester sur vos recherches et sur l'étude Discovery, comment ça se passe cette étude, vos recherches? En clair, qu'est-ce que vous faites, monsieur Laviol, tous les jours au Centre d'investigation clinique de Rennes?
Alors, le Centre d'investigation clinique est une grosse structure. À Rennes, nous avons le plus gros Centre d'investigation clinique de France. Un Centre d'investigation clinique, c'est au départ une unité d'investigation clinique, c'est-à-dire un service dans l'hôpital qui n'accueille que des patients pour des protocoles de recherche. Alors évidemment, depuis quelques semaines, toute notre recherche a été complètement réorientée vers le Covid-19, mais en temps normal, nous accueillons des patients qui viennent de différentes spécialités. Et ils viennent chez nous pourquoi ? Ils viennent chez nous parce que souvent les protocoles de recherche sont très exigeants, nécessitent des prélèvements qui ne sont pas des prélèvements qui sont faits en routine, nécessitent un suivi des patients particuliers, donc des personnels vraiment qualifiés. Et si on voulait faire ça dans les services de soins, ça serait très difficile parce que les infirmières, elles ont d'autres patients à voir, elles ont d'autres activités. Donc nous, nos infirmières, nos médecins sont dédiés spécifiquement pour les protocoles de recherche. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a tout le personnel autour, notamment qu'on voit un petit peu dans le film, en particulier les techniciens d'études cliniques, ce sont des professionnels de la recherche clinique qui sont chargés de nous assister, nous les médecins investigateurs, pour toute l'organisation logistique qui est très lourde pour un protocole de recherche. Et donc c'est important de comprendre qu'une recherche clinique, ce n'est pas le travail d'un médecin simplement, c'est une équipe, c'est beaucoup de monde, et c'est pour ça que la recherche clinique coûte très cher, parce que il y a toute une logistique, il y a beaucoup de gens à payer, et souvent les études sont très longues. Donc voilà. C'est ce que j'ai voulu un petit peu montrer très rapidement.
Et est-ce qu'il vous reste un petit peu de temps dans tout ça à consacrer à vos étudiantes et étudiantes de l'université Rennes ?
Ah, bien sûr. Moi, je suis hospitalo-universitaire. Je suis professeur des universités et praticien hospitalier. Donc, les PUPH, comme moi, ont trois missions, soins, enseignement, recherche. Et nous essayons de répartir notre activité sur ces trois missions. Alors évidemment, parfois c'est plus le soin, parfois c'est plus la recherche, parfois c'est plus l'enseignement, ça dépend.
Pour terminer peut-être, monsieur Le Bonheur, qu'est-ce que vous préparez pour les prochains jours ou les prochaines semaines à venir sur cette fameuse page Recherche Covid-19 sur le site de Rennes 1 ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on suit depuis le début avec le professeur Revest. On essaie de voir un peu ce qu'on peut donner comme information générale sur la pandémie avec les différents aspects. Les aspects épidémiologiques, la transmission du virus dans la population, où en est-on, les mesures qui sont prises, leur effet, les mesures à respecter, bien sûr. Et puis, des choses un petit peu plus fondamentales. Quelles sont les études qui sont sorties, les résultats qui ont été donnés, mais toujours dans une perspective d'avoir une vision un petit peu large et pas rester collé aux résultats tels qu'ils sont publiés les uns les autres à la suite les uns les autres, parce que ça, on trouve que c'est un petit peu anxiogène. Et ça a d'ailleurs été très bien remarqué sur un article de France, sur le site de France Info, de Louis Bois, je crois, qui montrait que voilà, cette série d'annonces là qu'on a, les scientifiques ont trouvé que alors il y a les anticorps dans la salive de l'âme, il y a plein de choses comme ça. Et à force d'avoir ces petites informations parcellaires, on ne sait plus très bien où on est, on se trouve un petit peu désorienté. Et justement, on a plutôt besoin de repères et d'avoir des assises un peu fermes dans ce contexte qui est quand même assez incertain. Donc c'est un peu l'idée. Donc sans doute que je vais continuer avec le professeur Revest à travailler là-dessus, suivant ses disponibilités, bien sûr. On a déjà fait trois volets d'entretien, le dernier en vidéo, là, sur comment va se passer le déconfinement et un petit peu, enfin, comment se passe le déconfinement et des choses à avoir un petit peu en tête. Et on va voir, je pense que d'ici, j'attends un petit peu en fait. L'idée, c'est de ne pas en faire trop et de voir aux étapes signifiantes ce qu'on peut apporter. Par exemple, on sait bien que le déconfinement a commencé le 11 mai et qu'on va avoir une sorte de point sur la situation aux alentours du début juin pour voir un petit peu les effets des choses. Et là, je vais sans doute demander son éclairage au professeur Revest sur cette étape-là. Donc voilà. Mais après, l'idée, c'est pas non plus de faire que ça. Il y a beaucoup d'autres actualités scientifiques à l'université que j'ai dû mettre en attente parce que voilà, c'était le sujet du jour, on va dire, ou même du mois, des mois qui sont passés. Et l'idée, c'est aussi de reprendre une communication plus large autour des autres sujets, parce que voilà, la vie continue, ma foi, et c'est bien l'idée de ce déconfinement.